Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de vous retrouver pour Culture Média. Au menu Média et Culture au sens large, nos indispensables du jour. Tiens, par exemple, aujourd'hui, de la littérature avec des micro-fictions et des conseils de films de kung-fu. Et c'est vrai que ça manquait. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Un bonus cette semaine, le portrait musical de l'invité culture par Angèle Châtelier. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Janton et les audiences avec Louise Bernard. Notre info média, nous serons avec BFM TV qui lance la semaine prochaine une nouvelle chaîne locale. Après Paris, Lyon, Lille et BFM Grand Littoral, elle va couvrir les Alpes du Sud et la Haute-Provence et sera basée dans une petite ville des Hautes-Alpes, Chorges. Pourquoi ? Comment ? Réponse avec Hervé Béroux, directeur général d'Altis Média, la maison mère de BFM. Et puis nos invités, Stéphane Bern qui présente la ferme préférée des Français. Ça démarre ce soir sur France 3 après le village préféré et le monument préféré. On lui demandera quelle est son émission préférée de Stéphane Bern, lui qui est déjà classé deuxième au classement des animateurs préférés des Français. Enfin, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, c'est lui qui accueille les stars en haut des marches. Il publie son autobiographie et vous apprendrez que sous le smoking, il y a un kimono. Le livre s'appelle Judoka et juste pour info, il est ceinture noire, 4e dan. Et comme en haut des marches, on va bien se tenir. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour à tous.
Antoine Janton, bonjour.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Les retrouvailles d'Alain Chabat et d'Astérix, tout cela sur Netflix. Canal+ conserve le top 14 de rugby et encore des incertitudes pour le dispositif de TF1 à 100 jours maintenant du début de l'Euro de football.
Mais d'abord, les audiences avec vous Luce Bernard. Qu'ont regardé les Français à la télé hier soir ?
La France 3 fait plus fort que TF1 avec une rediffusion d'un téléfilm, Le Pont du Diable. 4 millions de téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. La première fois que ça avait été diffusé, c'était 4 820 000, donc ça perd pas énormément de téléspectateurs pour une rediffusion. Ensuite, c'est TF1 avec sa série américaine SWAT. La moyenne des deux épisodes inédits fait 3 750 000 téléspectateurs, 16,8% de part d'audience. Puis M6 avec la suite de la saison 14 de Pékin Express, qui perd un petit peu de téléspectateurs par rapport au lancement. 2 700 000 téléspectateurs, mais ça reste un très bon score et la part d'audience est stable, hein, 13,7% d'audience.
Culture Média.
Antoine, c'est le moment de votre journal des médias à la une. Alain Chabat qui va de nouveau adapter un album d'Astérix.
Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, pas non plus.
Alors ça vous en souvenez peut-être, c'était il y a 19 ans, dans Astérix et Cléopâtre qu'Alain Chabat avait réalisé 14 600 000 entrées, 4e film français le plus vu au cinéma, et bientôt donc un nouvel Astérix vu par Chabat, Le Combat des Chefs. Cela dit, il ne s'agira pas d'un film, mais d'une série animée pour Netflix, qui plus est, diffusion prévue en 2023. L'animation, c'est une première pour Alain Chabat, pas pour la plateforme qui investit de plus en plus dans ce domaine. On vous parlait il y a quelques jours ici même de l'adaptation de Terminator. Autres projets en cours annoncés le mois dernier, Lara Croft et King Kong auront eux aussi leurs séries animées.
Canal+ conserve le championnat de France de rugby.
La chaîne cryptée va rester le seul diffuseur du top 14 et ce jusqu'en 2027, on l'a appris hier soir. Elle a remporté l'appel d'offres lancé par la Ligue nationale de rugby. Elle a enlevé les trois lots mis en jeu, à savoir tous les matchs de championnat, les magazines qui leur sont liés et, nouveauté, la diffusion sur le numérique et en quasi-direct d'extraits des rencontres, les essais, les pénalités par exemple. Tout cela pour près de 114 millions d'euros par saison, c'est 17% de plus que le montant actuel. Bref, tout le monde est content.
Alors c'est une bonne nouvelle pour Canal+ et pour son service des sports qui traverse en même temps des moments difficiles.
L'ambiance y est délétère, raconte l'un de ses journalistes aux Parisiens. La direction aurait conseillé, voire demandé récemment à certains journalistes de revenir sur leur signature, celle qu'ils avaient apposée en bas d'un texte de soutien à Sébastien Thoen. C'était quelques jours après le licenciement de l'humoriste, fin novembre. On vous en a déjà parlé dans ce journal. La chaîne parle, elle, d'une ambiance singulière au service des sports. Elle affirme que certains journalistes veulent revenir sur leur signature et qu'il leur a été dit que la parole était ouverte.
J-100 avant l'Euro de football masculin.
Le coup d'envoi est prévu le 11 juin prochain, avec un an de retard à cause de la crise sanitaire. Et du retard, il y en a aussi dans la préparation. Les conditions sanitaires n'ont pas encore été détaillées par l'UEFA. Elles devraient l'être le mois prochain. Et tout cela a des conséquences directes pour TF1, l'un des deux diffuseurs de la compétition en France avec M6. La chaîne avance dans le brouillard. Julien Millereux, directeur des sports de TF1 au micro de Culture Média.
On avance sur plusieurs pistes. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des gens sur le terrain. Après, à quoi ils auront accès, à la fois au stade en fonction des mesures de l'UEFA, mais aussi présence ou non de supporters. On travaille évidemment sur différentes pistes. C'est sûr que nous, sur TF1, on aime bien raconter des histoires avec les supporters, avec les familles de joueurs, et qu'on sera tributaire de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par l'UEFA. En tout cas, nous, notre volonté, c'est toujours de faire vivre aux téléspectateurs de belles histoires, que ce soit les joueurs, les supporters ou tout ce qui se passe autour des Bleus. Et on verra si on est en mesure de le faire et comment on est en mesure de le faire. Mais en tout cas, c'est notre ADN dans notre traitement éditorial.
Et pas de précision pour l'instant sur l'équipe de consultants qui couvrira l'Euro. En revanche, la chaîne promet des magazines à l'issue des matchs.
Et Antoine, l'Euro masculin n'est pas le seul Euro de football à être décalé.
L'Euro féminin aussi, il est reporté à l'an prochain. Il devait avoir lieu cet été. Une compétition dont les droits ont en partie été achetés par TF1, encore 14 matchs. Et là encore, Julien Millereux préfère voir le verre à moitié plein.
Ça nous permet d'avoir une séquence d'événements majeurs sur TF1 assez exceptionnelle, puisqu'on aura du coup l'Euro masculin cet été, l'Euro féminin l'année prochaine, et évidemment la Coupe du Monde 2022 qui se déroule fin 2022. Donc en 18 mois, on aura trois gros événements, ce qui est assez unique et ça permet de rappeler que TF1, c'est vraiment la chaîne des grands événements.
Julien Millereux, directeur des sports de TF1, début de l'Euro donc sur TF1 le 11 juin prochain. Compétition qui sera diffusée sur M6 et sur Bein. J'ai omis de le préciser tout à l'heure. Compétition à suivre à la radio, évidemment, sur Europe 1.
Les journalistes du Parisien sont en colère.
En colère contre l'édito publié hier. Le directeur de la rédaction, Jean-Michel Salvatore, y qualifiait les récentes condamnations de responsables politiques de dégagisme judiciaire. La rédaction se désolidarise de ce texte qui, dit-elle dans un communiqué, ne correspond pas aux valeurs portées depuis 77 ans par le Parisien. Les organisations syndicales, la Société des journalistes et le collectif des femmes du journal ont par ailleurs demandé à être reçus par Jean-Michel Salvatore.
L'actualité des médias à l'étranger maintenant, deux pays, deux infos.
Les États-Unis d'abord, où l'une des anciennes porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche rejoint Fox News. Kayleigh McEnany, il sera éditorialiste. L'Allemagne ensuite, où Reporters sans frontières vient de porter plainte contre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Plainte pour crime contre l'humanité. L'ONG dénonce sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. MBS aurait, selon les services de renseignements américains, validé l'opération pour exécuter le journaliste.
Retour en France avec une garde à vue prolongée à Reims.
Oui, celle de l'homme interpellé lundi, deux jours après l'agression d'un photojournaliste dans l'un des quartiers sensibles de la ville. Christian Lantenois, c'est ce journaliste qui était encore dans le coma hier soir. Son pronostic vital est toujours engagé.
Et puis on termine ce journal avec Instagram qui lance une nouvelle fonctionnalité.
Ça s'appelle la Live Room. Elle permet à quatre personnes de discuter en même temps lors d'un direct vidéo. Jusqu'à présent, c'était limité à deux utilisateurs maximum. Il faut peut-être y voir une tentative de résister à son concurrent Twitch, de plus en plus populaire, un service de streaming vidéo qui permet déjà d'être plusieurs internautes en direct.
Parfois sur Twitch, ils sont 10 000. Toutes ces infos, merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. On vous retrouve demain un journal des médias. Je précise que toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres dans la newsletter d'Europe 1. Il suffit de s'inscrire. C'est gratuit, europe1.fr. À suivre dans notre infomédia du jour, la nouvelle chaîne locale de BFM. Elle s'appelle BFM d'ici. Elle se trouve dans les Alpes du Sud et la Haute-Provence. Nous en parlons avec Hervé Bérou, c'est le directeur général de la maison mère de BFM, Altis Média. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vondel.
Sa présentation a eu lieu hier, son lancement est prévu la semaine prochaine. Une nouvelle chaîne sera diffusée à partir de mardi, le 9 mars. Il s'agit de BFM d'ici, D-I-C-I, dernière née des chaînes locales du groupe Altis Média. Et elle rejoint ses grandes sœurs, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Lille et BFM Grand Littoral. La famille BFM Région donc s'agrandit, développement rapide qui pourrait vite atteindre les limites fixées par la loi. Et cela alors que la concurrence s'organise. Bonjour Hervé Bérou.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur général délégué de l'Altis Média en charge de l'info et du sport. Je précise, Altis Média, c'est la maison mère de BFM. Nous parlions hier du documentaire La face cachée d'Éric Zemmour. Vous connaissez les audiences ?
Non, pas encore, parce que j'étais avec vous. Là.
Parce qu'on vient de la voir, on vient de les avoir. C'était regardé par 450 000 téléspectateurs sur RMC Story, ce qui est pas rien. Bon score pour la case. C'est le record en PDA pour la case, avec un pic à 540 000 téléspectateurs. Voilà, c'est dit.
Et très bonne nouvelle pour la chaîne, pour Stéphane Salé-Dechoux et pour Rachid Embarki, qui était avec vous hier.
Qui était le présentateur de cette émission, et ça continuera. C'est donc mardi prochain à 17h que sera lancée BFM DC, chaîne basée près de Gap, à Chorges précisément, dans le 05. Elle va couvrir les Alpes du Sud, la Haute-Provence. D'abord, pourquoi l'appeler BFM DC ? On dit BFM Paris, BFM Lyon, on comprend tout de suite. Pourquoi ne pas l'avoir appelée BFM Gap ou BFM Provence ?
Tout simplement parce que BFM DC prend la suite de DC TV, qui est la chaîne locale existante que Jean-Marc Passeron sur place a fondée il y a maintenant 7 ans. Donc DC TV existe depuis 7 ans. DC, c'est une marque très identifiée dans ces deux départements 04 et 05. Et donc fort logiquement, on a collé évidemment le BFM, mais on a gardé le nom original de cette chaîne.
Alors qu'est-ce qu'on pourra y voir et qu'est-ce qui va changer pour ceux qui connaissaient déjà préalablement la chaîne ? Qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors on va y voir la même chose que ce que l'on voit sur les autres chaînes locales de BFM, c'est-à-dire de l'information en continu. Le même principe finalement que celui de BFM TV, qui est toute proportion gardée.
Attendez, BFM Paris par exemple c'est info, trafic, météo. Le trafic,
ouais, c'est de l'info.
Entre Gap et Embrun, ça roule
alors,
plutôt pas mal.
Pour BFM DC, on a changé ce claim, comme ouais. on dit, qui est info, météo, proximité. Parce que évidemment, on va moins parler pour BFM DC de bouchons sur le périphérique, puisqu'il n'y a pas de périphérique, qu'à Paris ou qu'à Lyon ou Lille, par exemple. Mais pour autant, on va donner beaucoup d'informations servicielles à nos téléspectateurs, c'est-à-dire la météo des neiges, parce que dans les départements des Alpes, notamment, c'est évidemment très important. Et puis, ce sont des départements qui sont très touristiques. Il y a beaucoup de monde l'hiver dans les stations de ski, il y a beaucoup de monde l'été pendant les vacances. Et donc, à ces moments-là, il y a aussi beaucoup de considérations de circulation. Et on donnera, évidemment, là-bas aussi l'état des routes. Mais en tout cas, ce qu'on y trouvera, c'est de l'information sous toutes ses formes.
Petit détail, la météo, si je suis bien informé, sera faite depuis Paris. Pourquoi elle ne sera pas faite depuis là-bas ?
Parce que pour avoir plus de moyens de façon plus souple, on mutualise un certain nombre de moyens entre nos chaînes. Et par exemple, la météo, on n'a pas besoin d'être à Chorges pour enregistrer la météo de Chorges. Il suffit d'avoir les informations. Donc toutes les informations météo de nos chaînes locales sont enregistrées depuis Paris, que ce soit BFM Paris, Lyon, Lille, et ce sera la même chose pour DC.
Est-ce qu'il y aura une émission politique sur BFM DC comme il en existe sur BFM Paris ou BFM Lyon ?
Sans doute, c'est un projet. On va d'ailleurs
bientôt. Vous avez dit sans doute et de la tête, vous avez fait non de la tête.
Non. Ça, ce que je voulais dire, c'est que on en a une aujourd'hui, une émission politique sur BFM Paris, sur BFM Lyon. Ouais. On va en reprendre une bientôt sur BFM Lille. L'idée, c'est évidemment d'en créer une sur BFM DC. D'autant plus que bientôt se profilent les élections régionales et que l'actualité donc régionale, locale sera forte. Et évidemment, toutes nos chaînes locales ont vocation à avoir des émissions politiques, comme d'ailleurs des émissions sportives ou culturelles.
On ne l'a pas dit, alors je vais le dire. La chaîne BFM DC sera diffusée sur le canal 31 de la TNT régionale et sur le numérique, évidemment, on va le trouver via le site, via les applications. L'info de proximité, des reportages, on va y revenir, des émissions. À ce propos, je voudrais vous faire écouter un extrait du film de présentation de BFM DC.
Pour vous informer au plus près de chez vous, BFM DC, c'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Dès 6h30 le matin, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. À midi et demi, bonjour d'ici. À 17h, bonsoir d'ici. BFM d'ici.
Alors bonsoir d'ici, votre émission de fin de journée à 17h, ça va, vous collez aux horaires des habitants de la région, mais bonjour d'ici, autre rendez-vous d'info à midi et demi, 12h30. Or, bonjour sur les autres chaînes locales de BFM, c'est la matinale. Bonjour Paris ou bonjour Lyon, ça démarre à 6h30. Là, votre matinale commence à midi et demi. Pour quelle raison ?
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Le matin, il y a évidemment une matinale, mais qui ne sera pas incarnée. C'est un tout image qui est réactualisé. Donc, évidemment, on pourra s'informer et très facilement et très largement en matinale sur BFM DC. En revanche, pour coller là aussi aux spécificités du territoire, ouais. on a installé un rendez-vous de la mi-journée. On rentre plus déjeuner chez soi dans cette région qui est plus rurale, région de territoire, qu'à Paris ou à Lyon. Mmh. Donc il nous semblait important d'avoir ce rendez-vous de la mi-journée, qui peut être d'ailleurs un test, pourquoi pas, pour nos autres chaînes locales.
Voilà. Et pourquoi pas un rendez-vous le matin ? Parce que si je suis là encore bien informé, il y a un seul présentateur pour toute la journée, je vais le citer, il s'appelle Valentin Doyen et il fait le midi et le soir.
Voilà, il fera la tranche du midi et la tranche de fin d'après-midi.
Et vous ne pouviez pas lui faire le matin en plus ?
Non, peut-être pas. Mais en tout cas, on s'est dit aussi que, évidemment, vous en parliez tout à l'heure avec le trafic, dans les départements en question, il se passe peut-être moins de choses entre la fin de soirée et le matin qu'à Paris ou à Lyon, où le matin, comment ça circule est une question centrale. En revanche, on s'installe plus sur des rendez-vous de journée pour commencer cette chaîne.
Alors, on parle évidemment d'économie. L'une des particularités du réseau BFM Région, c'est d'avoir des reportages tournés avec des smartphones. Ce sera encore le cas, j'imagine, pour BFM d'ici. Ça coûte moins cher, tourner avec un smartphone, évidemment.
Et c'est très efficace, surtout.
Est-ce que c'est ça, les innovations technologiques qui sont évoquées dans l'extrait de bande-annonce qu'on a entendu il y a quelques instants ?
Alors, ça fait partie de ces innovations. Maintenant, le tournage au smartphone, il existe sur les chaînes locales de BFM depuis BFM Paris en 2016. Donc, on est maintenant très habitué et très performant sur ce domaine. Il y a aussi, dans nos chaînes locales, un présentateur autonome. C'est-à-dire que le présentateur, comme vous, eh bien, il gère son conducteur. C'est-à-dire qu'il a un bouton qui lui permet d'envoyer les reportages, les off-sons.
Il est à la fois présentateur, j'explique à nos auditeurs, ouais. Et réalisateur. Comme voilà. Sur les radios FM, où voilà. Quelqu'un peut faire une émission de radio tout seul, alors que là, par exemple, il y a une équipe avec moi, il y a Nicolas Souvent qui est aux manettes, et moi, je pose simplement les questions. Là, votre journaliste sera totalement autonome.
Voilà, il est totalement autonome. Il est seul à mener à la fois l'éditorial et à la fois le conducteur de son émission, ce qui nous permet de mettre tous nos moyens sur le reportage de terrain. Pour, évidemment, ces chaînes doivent avoir des moyens qui sont quand même limités. Ce sont de petites chaînes locales. Mais pour avoir le maximum de moyens, nous les mettons sur le terrain.
Et il peut aussi choisir la caméra qui le diffuse en plan large, en plan serré
bien
ou
sûr,
en gros
absolument.
Plan. Est-ce que c'est un test aussi ? Si ça fonctionne, est-ce que c'est un test ? Est-ce que ça pourrait être appliqué à vos autres chaînes sur BFM, sur BFM Business par exemple ?
Non, pas dans l'immédiat, c'est pas un projet actuel. Par exemple, ça n'est pas compatible aujourd'hui avec BFM TV. BFM TV, c'est une machine beaucoup plus importante.
Mais sur BFM Paris, par exemple
Pour BFM Paris, c'est le cas. C'est déjà le cas.
D'accord.
Depuis le mois de septembre.
Régie autonome, il y a une régie autonome qui équipe les quatre autres chaînes. Elle arrivait tard sur BFM Paris en début d'année. Mmh. Il y avait une régie classique avec les techniciens. Il y avait aussi plus de reporters. Il y en a moins aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'info locale doit être de l'info low cost ?
Non, pas du tout. Mais en fait, vous savez, on avance aussi en marchant. On a créé BFM Paris fin 2016. Honnêtement, on a sans doute un petit peu surdimensionné la chaîne à l'époque. On en a fait un mini BFM TV. Et en fait, pour que cette chaîne soit viable économiquement, c'est aussi évidemment un aspect fondamental des choses, eh bien, nous avons dû resserrer un petit peu la donne à la rentrée. Nous avons réorganisé BFM Paris, d'une part en passant au présentateur autonome, comme dans nos autres chaînes locales. On avait vu que ça fonctionnait bien à Lyon et à Lille, ouais. Pas de raison que ça ne fonctionne pas à Paris. Et puis on a aussi un petit peu resserré la rédaction. On travaille de plus en plus en synergie avec BFM TV, avec les équipes de RMC, RMC Sport par exemple. Et ça n'empêche pas BFM Paris de faire de la très bonne info locale.
Voilà pour les dépenses et les recettes, la publicité. On en parle dans un instant. Nous sommes avec Hervé Bérou, directeur général délégué d'Altis Média, en charge de l'info et du sport. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel. 9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Hervé Bérou, nous parlons de BFM d'ici, la nouvelle chaîne régionale que lance BFM, ça sera mardi prochain. Vous êtes Hervé Bérou, le directeur général d'Altis Média, en charge de l'info et du sport. Altis Média qui chapeaute BFM. On va parler de publicité. Est-ce que la clé pour vous, il y a une publicité locale, mais qui n'est pas non plus énorme par définition, elle est locale. Est-ce que la clé pour vous, c'est la publicité ciblée, justement sur ces chaînes de région ?
Les deux, mon capitaine. La publicité locale, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Elle a un très gros potentiel. Aujourd'hui, dans les régions, des artisans, des commerçants, de petits entrepreneurs doivent pouvoir, pour un tarif très modique sur ces chaînes locales, faire leur publicité, se faire connaître. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui n'est pas encore assez entré dans les esprits et qu'on va vraiment chercher à beaucoup développer dans les mois et les années qui viennent. Et puis ensuite, évidemment, il y a la publicité adressée qui doit permettre de vraiment révolutionner aussi cet aspect-là. Et puis aussi, je dirais, la publicité nationale localisée, c'est-à-dire un constructeur automobile, il a une concession à Gap, à côté de Chorges, il peut faire de la publicité pour sa concession qui est à la fois de la publicité pour sa marque. Voilà. Donc on a plein de façons différentes de pouvoir optimiser et développer la publicité sur le marché local.
Le réseau BFM Région est regardé par 2 700 000 personnes chaque semaine. Ce sont des chiffres dont vous êtes satisfait, j'imagine. Est-ce qu'il y a une explication à ce succès, à part que vous travaillez bien et que vos équipes sont motivées?
Je crois que c'est l'appétit des téléspectateurs, des citoyens pour l'information de proximité. C'est notre conviction depuis 2016, depuis le lancement de BFM Paris. Voilà, bien sûr, on est bien placé pour le savoir. Les gens ont un appétit d'information nationale, internationale, et nous avons des médias qui remplissent cet office. Mais on est aussi convaincus depuis maintenant plusieurs années que les gens ont envie de savoir ce qui se passe près de chez eux. Et on pense qu'en fait, il y a beaucoup de télévision locale en France depuis des années. Mais on pense qu'avec notre marque, notre savoir-faire, on peut apporter une qualité à cette information locale qui doit pouvoir satisfaire les gens. Et les chiffres de nos chaînes, les audiences de nos chaînes nous le confirment.
Puisque vous parlez de marque, Hervé Bérou, je le précise à nos auditeurs qui nous écoutent seulement et qui ne nous regardent pas sur Europe1.fr, Hervé Bérou est venu avec un masque siglé BFM TV de la même couleur que vos micros, avec ce bleu roi et la petite touche orange.
Je savais que ça vous plairait.
BFM TV, j'ai bien compris, s'étend dans le sud-est, dans les Alpes du Sud, Haute-Provence, avec BFM d'ici, on vient de le dire, et bientôt sur la Côte d'Azur, avec le rachat annoncé le mois dernier d'Azur TV. 3 chaînes locales à Marseille, Toulon et Nice. Vous attendez notamment le feu vert du CSA. Quand le CSA...
Pas notamment.
Oui, vous attendez le feu vert du CSA. Quand doit-il donner sa réponse?
Écoutez, nous l'espérons le plus vite possible.
Non, je veux dire, il n'y a pas de calendrier qui a été annoncé.
Non, mais nous avons donné au CSA tout ce que nous devions donner. Donc, le temps, j'imagine, pour eux de l'examiner. On espère le plus vite possible pour pouvoir avancer le plus vite possible. Courant mars, ce serait formidable.
Ce sera BFM Azur, ce sera BFM PACA. J'imagine pas PACA, mais Azur, ce serait quoi le nom?
Oui, alors il y aura 3 chaînes, puisqu'il y a 3... voilà, il y a Marseille, il y a Toulon et il y a Nice. Hein, donc, il y a 3 grandes zones. Donc, il y aura sans doute des journaux régionaux, et puis ensuite il y aura Marseille, mais peut-être Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, enfin tout ça est à définir, à travailler et à préciser, et encore une fois, quand le CSA aura donné son agrément, on ne va pas aller plus vite que la musique. Pourtant, on aime bien aller vite, mais on n'ira pas plus vite que la musique.
Alors, je l'ai dit en préambule, BFM Région risque d'être confronté, ou est même déjà confronté à un problème, le seuil anti-concentration fixé à 12 millions d'habitants hors Île-de-France. Il devrait être atteint si le rachat d'Azur TV est validé. Donc ensuite, vous ne pourrez plus développer votre réseau régional.
Alors, si le seuil n'est pas modifié, en effet, on ne pourrait pas continuer à se développer de la façon dont on le fait actuellement, mais ça n'empêcherait pas forcément des partenariats avec d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans le capital de d'autres chaînes et continuer d'avancer de cette façon-là. Mais d'une manière générale...
Mais sans sigler la chaîne.
À voir, mais en tout cas sans être majoritaire au capital. Voilà. Ensuite, nous souhaitons que ce seuil puisse être modifié, parce qu'il nous paraît aujourd'hui avoir vécu ce seuil. Il faut savoir, a déjà passé au fil des années de 6 millions à 12 millions. Nous souhaitons qu'il puisse continuer à évoluer dans ce sens pour que cela ne freine pas le développement de l'information locale à la télé.
BFM TV avait failli se rapprocher d'un autre réseau de chaînes régionales, pardon, VIA. Vous avez mis fin aux négociations. VIA est aujourd'hui en redressement judiciaire. 2 de ces chaînes sont en vente, VIA Occitanie, VIA Grand Paris. Vous êtes candidat au rachat?
Non.
Autre sujet, le départ de Ruth El-Krieff. Elle a quitté BFM TV il y a 3 semaines. Départ annoncé précipitamment, on s'en souvient, un mardi soir, en fin de journée, dans un communiqué de la direction de la chaîne et du groupe. Est-ce que cette communication a été avancée parce que le lendemain, le Canard Enchaîné allait annoncer son départ? C'est ce que racontait le Canard Enchaîné le mercredi suivant.
Non, c'est inexact, simplement... Ruth, que j'adore, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans à BFM TV, qui est une immense professionnelle, a souhaité tourner une page. C'est logique, ça peut arriver à tout le monde. Elle a souhaité réfléchir, aller sans doute vers d'autres horizons. Nous l'avons parfaitement compris, nous avons discuté ensemble, et puis est arrivé un moment où on a trouvé un accord pour prendre cette décision et pour l'annoncer. Et il n'y a eu aucune précipitation en la matière.
Dernière petite question pour vous du Canard Enchaîné. Le journal annonce ce matin qu'un restaurant clandestin a été fermé à côté de BFM, avec des journalistes notamment à l'intérieur. Réaction?
Il n'y a aucune information à ce sujet, très honnêtement.
C'est dans le Canard ce matin, et vous n'avez pas d'infos sur un resto à côté de BFM avec des journalistes?
Non, absolument pas. Il n'y a pas de resto, à ma connaissance, qui a été fermé à côté de BFM TV avec des journalistes. J'ai lu cet écho qui manquait un peu de précision. Enfin voilà, et je n'ai pas eu de connaissance de journaliste de BFM dans un tel événement.
Et j'imagine que vous ne manquerez pas d'aller enquêter. Merci beaucoup Hervé Berrou, directeur général délégué d'Altice Média en charge de l'info et du sport. Et vous lancez mardi prochain, le 9 mars, BFM d'ici sur les départements 04, 05.
Merci beaucoup,
d'avoir été avec nous en direct.
À bientôt.
Dans un instant, nous serons avec Stéphane Bern à l'occasion de la ferme préférée des Français. C'est sa nouvelle émission qui démarre ce soir sur France 3, qui met à l'honneur des agricultrices, des agriculteurs passionnés. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Philippe Vondel, bonjour à tous.
Stéphane, on vous entend tous les jours sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël, mais ce matin on va parler de télévision. Vous présentez pas moins de 4 émissions sur France Télé, Secret d'Histoire, Le Village Préféré des Français, Le Monument Préféré des Français, et Si les Murs Pouvaient Parler, sans parler de fiction. Et voici un nouveau programme avec vous à sa tête, La Ferme Préférée des Français, c'est ce soir sur France 3. C'est un tour de France des plus belles fermes, des plus grosses, des plus bio, des plus télégéniques. Comment ont-elles été choisies ?
Au fond, si vous voulez, en ce moment, France Télévisions se passionne pour le monde paysan. Et c'est une façon de montrer à la fois la dure réalité, avec des documentaires qui d'ailleurs ont été assez suivis. Nous, on nous a demandé de décliner, si vous voulez, notre concept les préférés, village, maison autrefois, mais surtout village et monument, à travers des expérimentations, c'est-à-dire des histoires de famille, des histoires de personnes qui quittent tout pour créer une ferme. C'est plutôt pour montrer la richesse et la diversité de l'agriculture française, rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui sacrifient tout, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de repos. On travaille beaucoup plus pour un salaire de misère, mais qui ont la passion. Ce sont des gens qui ont des fermes d'un modèle. Elles sont exemplaires. Mmh. C'est pas la dure réalité du monde paysan. C'est plutôt des expériences, des expérimentations formidables. C'est une ferme ostréicole, c'est une ferme de plantation de thé, par exemple, en Outre-mer. C'est ici des élevages de brebis avec du fromage. C'est là des ânes. Voilà, donc c'est plutôt la richesse et la diversité des fermes françaises.
On va les détailler, on va les voir, on va voir les enjeux dont vous venez de parler à l'instant. Stéphane, on vous connaît très investi dans la défense du patrimoine. Est-ce que les fermes, ça pourrait être une déclinaison comestible, une déclinaison qui se mange du patrimoine ?
Écoutez, moi j'ai la chance d'allier en quelque sorte le patrimoine avec la campagne. Puisque le patrimoine, 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Et c'est là où il y a évidemment les agriculteurs. J'ai la chance d'avoir un monument historique dans le Perche et je suis entouré d'agriculteurs. Donc je vois bien les réels enjeux pour notre agriculture et pour les paysans.
Le monument historique dans le Perche, c'est le vôtre ?
C'est
votre maison ?
Oui, c'est à Thiron-Gardel, le collège royal et militaire.
Et vous avez vous avez des poules ? Vous avez quoi ?
Moi, personnellement, j'ai des poules, mais je n'en fais pas commerce. Si vous voulez. Je ne mange que mes œufs, j'ai chèvres, oies, j'ai des animaux. Mais justement, j'ai voulu que ça me donne une conscience de la réalité du monde, d'une certaine réalité en tout cas, et surtout de respecter la nature. Il faut arrêter l'agribashing, il faut réconcilier les Français avec les paysans. D'abord, arrêter l'agribashing en pensant qu'ils sont tous des pollueurs, qu'ils maltraitent les bêtes. Comment on peut croire qu'un éleveur a envie d'abîmer ses animaux ?
Vous mélangez deux choses dans la phrase. Un éleveur n'a pas envie, mais on a tous vu ces images, et je ne suis pas là pour faire de l'agribashing, de poules, le poulet en batterie, et de cochons qui ont chacun un mètre carré.
Mais bien sûr,
donc, combien même n'en ont-ils pas envie ?
Contre eux.
Ils sont forcés par les conditions économiques.
Exactement. C'est ce qu'on essaye de changer. Et c'est la raison pour laquelle cette émission montre d'autres fermes. Et une agriculture raisonnée. Et justement, moi, j'ai milité avec L214 contre l'agriculture intensive.
L214, c'est l'association qui va filmer dans les abattoirs en caméra cachée.
Exactement. Alors, ça m'a valu aussi quelques reproches du côté des agriculteurs. Mais j'essaie de réconcilier les deux. On peut à la fois... Moi, je mange de la viande, je défends les produits de qualité, mais surtout, je veux qu'on paye le juste prix pour que les agriculteurs puissent jouir du fruit de leur travail.
Alors, on va voir des exemples qui sont dans l'émission. Oui. Il y a les fermes, mais il y a aussi les fermiers. Ce n'est pas une émission d'immobilier, on l'a bien compris. Il s'agit d'humains avant tout.
Oui, c'est des histoires humaines merveilleuses et transmissions familiales.
Le premier couple, ce sont Chirine et Marc, qui sont en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leur domaine, c'est le domaine Cadavre Exquis, ça ne s'invente pas. Ils font du vin comme il y a plus de 1000 ans, tout est fait à la main. le ramassage, mais ensuite, ils n'ont même pas de moteur électrique pour broyer, et ça va encore plus loin.
Mais le plus surprenant se passe peut-être au moment de la vinification. Toute l'originalité de la méthode de Marc et Chirine consiste à recueillir ce jus de raisin sans aucun produit ajouté et à peine filtré, dans ces grosses bonbonnes en verre, comme cela se faisait dans l'Antiquité.
Je la remplis vraiment jusqu'au haut. Ça va rester jusqu'au printemps, à ciel ouvert. Et ensuite, on les enterrera aux premières chaleurs du printemps.
Vous avez bien entendu, ici, on enterre le vin. Leur cave, la voici. Un gros tas de terre recouvert de paille sous lequel se cachent ces fameuses bonbonnes.
On a l'impression, quand on voit les images, qu'on est un peu chez les fous. Vous avez goûté leur vin ?
Écoutez, non, je n'ai pas goûté le vin. J'aurais goûté d'autres produits parce que, bon, je ne suis pas un grand fan d'alcool. Mais ce que j'ai aimé dans cette émission, c'est des histoires humaines. Ouais. Par exemple, l'agriculteur François qui, avec ses deux filles, fait des sangliers en Corse.
Ah, je vais en parler parce que justement, vous parliez Stéphane de ceux qui ne comptent pas leurs heures. Il y a également Ursula et Nicolas, paludiers à Mesquer. Ils récoltent la fleur de sel, le gros sel, et ils expliquent, le mot est faible, qu'ils travaillent beaucoup.
Chaque année, Nicolas et son équipe récoltent 2,5 tonnes de fleurs de sel, mais surtout 55 tonnes de gros sel à la seule force des bras.
La récolte, c'est dur physiquement parce que c'est de l'endurance. On peut récolter pendant 3, 4, 6 semaines sans arrêt. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Mais normalement, il n'y a pas de souci, on y arrive. Jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans que je le fais, je ne suis pas encore mort. Le sel, ça conserve.
Pas de samedi, pas de dimanche, vous en parliez de cet agriculteur corse qui fait de la charcuterie, qui dit travailler 12 à 14 heures par jour. Et en visionnant l'émission, parce que j'ai tout vu, je pensais à tous ces gens qui nous entendent, qui sont aux 35 heures, qui posent des RTT, qui posent des jours de vacances. Et en voyant ces paysans, on pensait qu'ils ont envie de se tirer une balle en se disant « quelle horreur ces horaires-là » ou au contraire, qu'ils vivent par procuration le fait d'avoir un métier qui vous passionne.
Je crois que c'est ça qui est important dans la vie. Est-ce qu'on veut réussir sa vie ou réussir dans la vie ? Eux, ils ont des métiers de passion. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, ces fermiers avec les ânes, d'autres avec des chèvres, avec en Corse, par exemple, avec ces sangliers qui sont merveilleux, enfin, ces cochons corses, ils sont au milieu de la nature, ils ont le produit du terroir, ils ont l'amour du travail bien fait.
Ma question était, selon vous, qu'est-ce que ça produit sur le téléspectateur ?
Eh bien, moi, ça me donne envie d'être, d'abord de me rapprocher de la nature, pas de faire ce métier, j'y arriverai pas.
Non, mais vous êtes hors concours, Stéphane Bern, travaillez comme un dingue. Vous travaillez du lundi matin au dimanche soir.
Mais vous savez, on a tous des racines paysannes. Je crois que ça nous reconnecte à nos origines. On est tous des citadins par la volonté du travail, parce qu'on est obligé d'aller chercher du travail en ville.
Vous allez parfois chez l'ostéo, Stéphane Bern ?
Oui, oui.
Je dis ça, il y a des vaches qui vont quasiment chez l'ostéo. Oui. C'est dans Culture Média.
Oui, c'est formidable.
L'émission continue, Stéphane Bern avec nous.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Stéphane Bern qui présente la ferme préférée des Français. Nouvelle émission ce soir sur France 3 à 21h. On parle de cas de ces jeunes agriculteurs qui vous ont séduit avec leurs nouvelles pratiques. Pedro et Sophie, par exemple, ils ont une ferme avec des vaches. Tout est naturel, tout est bio. Les vaches mangent uniquement de l'herbe dans les prés. Et eux s'occupent vraiment de leurs vaches, notamment Olivia qui vient d'avoir un petit veau. Olivia, c'est une vache.
Tout est fait pour garantir aux vaches le meilleur cadre de vie possible.
Comment tu la sens ?
Non, je pense qu'il y a un petit déséquilibre au niveau du bassin.
Aujourd'hui, Olivia, qui sort d'un vélage difficile, est soignée par l'ostéopathie.
Tu vas poser ton coude ici et je vais utiliser en fait la queue pour faire un axe de levier et amener petit à petit, voilà, à faire bouger cette zone. Voilà, on fait en douceur.
Je précise que Sophie est vétérinaire et je le rappelle, Olivia, c'est la vache. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la chance d'avoir une séance d'ostéo. C'est vraiment des agriculteurs totalement new look.
Oui, c'est ça, mais il y a une nouvelle agriculture aussi, de gens qui quittent la ville. Par exemple, j'ai beaucoup aimé aussi ceux qui sont au bec et loin, qui font des cultures maraîchères en permaculture. Alors, il y a maintenant le système des AMAP. Moi, pendant le confinement,
expliquez ce qu'est le système des AMAP.
C'est-à-dire que ce sont des associations où on vous fait des paniers avec des légumes bio qui sont cultivés, puis c'est des circuits courts. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience écologique et on va se fournir chez les maraîchers, les paysans locaux, eux bénéficient du fruit de leur travail. Ça ne passe pas par la grande distribution qui les à coup de bambou, qui les massacre. Hein,
la limite du genre, évidemment, je ne vais pas vous en faire le reproche, c'est qu'on voit que beaucoup de ces couples, de ces familles pratiquent l'agrotourisme, d'autres ont des fermes pédagogiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentable pour l'instant vivre
exactement.
Avec
vertu. Ils se diversifient. Ils développent d'autres activités qui sont des activités complémentaires et qui, en même temps, vous savez, comme les hôtels sont fermés, en ce moment, ce qui marche, c'est les gîtes ruraux. Hein, ouais. Ça marche plutôt bien.
Mais c'est un petit peu triste, non ? Il y a François et ses filles, vous en parliez, qui fait de la charcuterie corse. Ouais. On voit les cochons qui vont dans la montagne, qui mangent que des glands, des châtaignes. Quand il va vendre ses produits sur le marché de l'île Rousse en Corse, les seuls clients, ils sont faciles à repérer, ils ont l'accent pointu.
Oui, c'est-à-dire,
comme on dit, c'est pas du tout des locaux, c'est des Parisiens, c'est des touristes, et beaucoup vous le disent, les produits de la ferme, ça coûte très cher, et là-bas, les locaux, pardon de dire ça, ils vont au supermarché.
Je sais, mais je pense qu'au bout d'un moment, à force de s'empoisonner et de voir toutes les maladies qu'on développe, on va peut-être avoir envie de retrouver le goût des choses. Moi, je préfère consommer moins, mais consommer mieux, et que ce que j'achète permette à des femmes et des hommes de vivre leur passion et de profiter du travail.
Vous, travail. Moi aussi.
Oui,
mais
alors
problème, on va pas régler ce problème-là. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et puis il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
Alors, le problème, c'est qu'il faut rendre cela accessible à tous. Et ce qui est scandaleux, c'est de dire, sous prétexte que vous n'avez pas les moyens, on va vous tuer, vous empoisonner à petit feu avec des produits merdiques. Vous savez, c'est les coups de gueule de Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, qui était mon voisin, qui me racontait tout ça pendant des années. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui et il m'a convaincu. Donc, quand je fais la ferme préférée des Français, j'ai envie de dire aux gens, oui, je ne dis pas que la ferme, c'est magique, mais il y a quelque chose de nos racines qui sont là et qu'on doit respecter davantage la nature, les paysans et ce qu'ils font.
Je reste dans le local. Vers la fin de l'émission, Stéphane Bern, vous faites même la promotion des produits locaux grâce à une initiative gouvernementale, mais pas seulement.
Si vous aussi, vous souhaitez soutenir les agriculteurs près de chez vous, vous pouvez le faire en vous rendant sur la toute nouvelle plateforme frais-et-local.fr, lancée par Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, en partenariat avec les chambres d'agriculture. Fruits, légumes, viande, poissons, crèmeries, vous trouverez sur une carte tous les points de vente proches de chez vous. Alors allez-y.
Alors là, vous citez carrément Julien de Normandie, qui est le ministre de l'Agriculture. C'est du public rédactionnel ?
Non, mais si vous voulez, il nous a informé de cette nouvelle plateforme qui permet aux agriculteurs, justement, de vendre leurs produits. Et toujours
en circuit court. J'ai bien compris ça. Mais vous auriez pu citer la plateforme sans citer le ministre. Là, on va encore vous reprocher d'être ami avec Emmanuel Macron.
Je vois pas le rapport.
Le rapport, c'est un ministre d'Emmanuel Macron.
Non, mais si vous voulez, le ministre a demandé à France 2 de pouvoir venir s'exprimer dans l'émission. On lui a dit que c'était pas le lieu, mais qu'en revanche, je citerai son initiative. Voilà. Donc, moi, vous savez, je n'ai pas d'amis dans ce cas-là. Hein. Je fais mon métier le plus sérieusement possible. Je ne dis pas pour qui je vote. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est de défendre les agriculteurs. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces hommes et ces femmes qui se battent tous les jours pour défendre nos paysages. C'est notre patrimoine, hein, les fermes.
Et je vais citer cette toute nouvelle plateforme, frais-et-local.fr. La ferme préférée des Français, donc ce soir, c'est une formule qui a fait ses preuves. Vous aviez déjà présenté en juillet le village préféré des Français. En septembre, le monument préféré des Français. Vous allez faire quoi ensuite? Parce que
on se moque de moi en me disant il va faire les toilettes préférées des Français.
Finalement, non, je veux dire, on a une idée dans l'équipe de Culture Média. L'émission préférée des Français présentée par Stéphane Bern. Parce que là, c'est impressionnant. 2021, vous avez présenté, vous allez présenter Victoire de la musique, Victoire de la musique classique, Eurovision France, c'est vous qui décidez, Symphonissime, Secret d'histoire, l'Eurovision, et en 2020, l'Eurovision Junior, le concert de Notre-Dame, la grande soirée du 31 Versailles, le concert du 14 juillet, laissez-vous guider avec Laurent Deutsch, et si les murs pouvaient parler.
Écoutez, il y a deux domaines dans lesquels j'interviens. L'histoire avec Secret d'histoire ou si les murs pouvaient parler. Le patrimoine avec Laissez-vous guider, Mission Patrimoine, et puis cette série des préférés, La ferme, le village et le monument.
Et puis l'Eurovision. Et puis les victoires de la musique.
Oui, mais l'Eurovision, je le fais, je suis le plus ancien à le faire.
Ouais.
Ça fait 6 ans et ça marche plutôt bien. Je crois que c'est ma 7e année. Sans compter, c'est vrai que les grands événements, le patrimoine fait son show le 31 décembre à Versailles où ça réunit 7 millions de téléspectateurs. Donc on me dit, ça marche, on va le remettre.
En fait, vous ne savez pas dire non.
Alors, je ne sais pas du tout. Et puis moi aussi, j'ai ce lien avec les artistes, comme vous savez.
Non, mais c'est
que
pas
je
vous
suis
qui intrigué pour présenter les émissions.
Non, pas du tout. Et parfois, je demande à en faire moins.
Ouais.
Mais je crois qu'il faut rester dans son domaine de compétences
et
faire
à part,
l'événementiel.
Blague à part, dans le classement des personnalités télé préférées des Français, eh bien, vous êtes deuxième derrière Jean-Pierre Pernaut, quand même devant Nagui, devant Jean-Luc Reichmann, devant Michel Simès et devant tous les autres. Le mois dernier, vous aviez signé une tribune en faveur de la réouverture des monuments et des musées qui sont à l'arrêt, comme on le sait, depuis 4 mois. Vous n'avez toujours pas été entendu.
Non, mais de toute façon, c'est pour ça que je vous dis...
Ça vous fait sourire.
Oui, mais ça me fait sourire d'un point de vue, parce que j'ai aucun pouvoir, vous voyez. On me dit les copains avec machin, ben oui. Machin. C'est-à-dire, je peux avoir accès plus facilement pour gueuler. Et je le fais.
Quand
je
vous gueulez dans le bureau de la ministre de la Culture,
oui, les rapports avec les ministres, elle me dit de me mêler de mes oignons de temps en temps.
C'est vrai.
Et parce que moi, je suis, j'hésite pas à dire ce que je pense. Oui, je trouve scandaleux, si vous voulez, que les musées soient obligés d'amener leurs collections dans des galeries d'art privées pour être exposés. Et là où les gens sont entassés, alors que dans les musées, il n'y a aucun risque de contamination.
Et quand
parce
vous dites
que
ça à la ministre Roselyne Bachelot, elle vous répond quoi ?
Sur le fond, j'ai raison. Mais que le Premier ministre ou le Président, ou je ne sais pas qui, dit « mais non, c'est tout ou rien ». Moi, j'en ai marre du tout ou rien, parce qu'on est obligé de s'adapter. Vous voyez, il y a des régions qui ouvrent, des régions qui ferment. On peut acheter une croûte dans le 11e arrondissement. Pardon, il y a des choses très bien aussi. Hein. Mais sans problème, en étant entassé dans une galerie d'art. Par contre, au Louvre, pour voir les chefs-d'œuvre, on ne peut pas y aller. C'est pas normal. Et les lieux patrimoniaux, eh bien, il y a une distance naturelle. C'est grand, il y a de l'espace.
11e arrondissement, l'arrondissement de Paris, Bobo, par excellence.
Oui.
Merci Stéphane Bern. Je rappelle, la ferme préférée des Français, c'est ce soir sur France 3 et tous les jours, évidemment, on vous entend dans Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël sur Europe 1. Et puis, je vais préciser, il y a une semaine spéciale sur Europe 1 autour de l'agriculture. Demain jeudi, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil dans La France Bouge seront directs d'une ferme expérimentale dans les Yvelines. Merci encore Stéphane.
Merci Philippe, merci à tous.
Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. Nous recevrons Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une soirée consacrée au cinéaste Claude Sautet. Puis Bertrand Chameroy pour son écran de veille, c'est tout à fait autre chose. Maman est célèbre. Notre invité est le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Il sort un livre autobiographique qui raconte le judo, sa passion. Et puis dans les indispensables, les arts martiaux, tiens justement, dans le 7e art. Et une micro-fiction très poétique.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.